Bienvenue dans Paris d'avenir. Chaque jour, nous consommons à Paris plus de 500 000 mètres cubes d'eau potable. L'eau est acheminée dans la capitale par 600 km d'aqueduc et elle est stockée dans 5 réservoirs aux portes de la ville. Ça, c'est pour les chiffres du soir. La qualité de l'eau est évidemment surveillée de très près. Elle nécessite aussi une surveillance constante et pas seulement l'eau du robinet. Alors, de l'eau toujours plus propre à Paris, c'est le thème ce soir de Paris d'avenir autour d'entreprises innovantes. Yann Charrera, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général d'Aquaticia, donc on va vous présenter un peu tout à l'heure. Hein. Évidemment, vous êtes un bureau d'études techniques, on va dire, en génie sanitaire et thermique, qui a été créé, alors en fait, c'est en 2001 à peu près, mais en partant d'une activité qui était très ancienne quand même. Hein. Tout ce qui est l'eau, vous connaissez depuis longtemps. Alors d'abord, pour éliminer, on va dire, cette question, tout le temps j'en parlais, voilà, est-ce qu'il y a l'eau de Paris, c'est sans danger?
C'est le meilleur produit alimentaire français. L'eau de Paris est l'eau la plus contrôlée. Faut savoir.
Alors pourquoi tout le temps, voilà, il y avait encore il y a récemment un documentaire, enfin encore l'année dernière, qui parlait des inquiétudes, bon, plutôt sur le reste de la France, et d'ailleurs on le voit avec les inondations qui sont produites dans le sud, où justement parfois il n'y a plus d'eau potable, parce que le problème c'est de gérer aussi toute cette eau qui déborde, on va dire, et avec les égouts, ça c'est compliqué, mais à Paris il n'y a pas de problème.
Il peut en subsister. Mmh. D'une manière générale, il faut savoir que l'eau de Paris est quand même un produit très très contrôlé. C'est vrai que je pense que c'est une idée reçue, le fait que l'eau de Paris ne soit pas bonne. On a quand même des histoires de plomb, des problèmes de sécurité sanitaire, notamment avec des bactéries comme la légionelle. Mais d'une manière générale, elle est d'assez bonne qualité. Il faut quand même respecter quand même quelques précautions avant de la consommer, mais elle est quand même très bonne.
Alors justement, vous proposez des analyses d'eau, on verra ça en détail. Mais alors voilà, vous en avez parlé, il y a beaucoup la question de la sécurité. Il faut dire qu'il y a un cadre réglementaire très strict et qui a été sensiblement renforcé aussi ces dernières années.
Exactement, il faut éviter les dérives. Il faut savoir que la réglementation n'avait pas changé pendant quasiment 20 ans. Elle a évolué en 2001, puis en 2007, encore en 2010. Il faut savoir qu'il y a quand même certains cas de maladies liées à l'eau qui ont nécessité de renforcer la réglementation et notamment de renforcer le contrôle.
Alors on va voir ça, hein, tout ce contrôle de l'eau avec un autre acteur aussi ce soir, Greg Arpofi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur technique R&D d'ISB Water. Donc ISB Water, c'est donc une société créée en 2004, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Voilà,
oui.
Vous êtes du côté de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Là aussi, alors vous êtes dans le traitement de l'eau, un spécialiste, parce qu'évidemment l'accès à l'eau potable, c'est un enjeu. Alors évidemment, là on parle de Paris, mais évidemment plus globalement dans le monde. Hein.
Oui, tout à fait. Alors nous développons effectivement tout un axe de recherche sur l'eau, essayant de nous permettre de supprimer le plus possible l'adjuvant de produits chimiques dans les process d'eau afin de permettre en fait de préserver une ressource qui à nos yeux intègre en fait une pollution assez importante liée au traitement même de l'eau elle-même et en agissant ainsi on pense pouvoir œuvrer de façon efficace pour l'environnement.
Oui, parce qu'alors évidemment il y a tout ce qui concerne, j'en parlais, les hôpitaux, évidemment les collectivités, aussi les industries, c'est quand même l'industrie aussi qui est la plus concernée aussi par tout le traitement de l'eau.
Tout à fait, oui, tout à fait. L'un des enjeux majeurs finalement dans ce qu'on propose, c'est de lutter contre les problématiques d'entartrage ou de corrosion, qui sont deux axes significatifs finalement de lutte contre le risque sanitaire. Et donc on apporte des solutions qui permettent de ne pas utiliser de sels d'adoucissement, par exemple, ou de produits type filmogène qui ont un impact assez important sur les faunes aquatiques et sur la vie en milieu naturel.
Oui, d'accord. Et vous faites ça d'ailleurs par système d'électrolyse. Et c'est un petit peu d'ailleurs le rapprochement qu'on va avoir avec le troisième invité, Jean-Christophe Prévost. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc le fondateur de Clinéa. Alors vous, c'est une autre façon d'aborder, on va dire, l'eau, parce que vous proposez aux entreprises donc du secteur de l'hôtellerie et de la restauration de remplacer alors tous les achats de détergents par la fabrication de leurs propres produits. Et là, on va se servir de l'eau justement pour faire des détergents verts. Et ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous rendez véritablement le client actif.
Alors non seulement le client actif, mais devient producteur de ses propres produits détergents. Donc en fait, on a cherché une idée simple, c'est de raccourcir complètement la chaîne logistique et de produire sur place ses propres détergents. Donc on utilise les fluides qui existent dans un immeuble, par exemple, l'eau, l'électricité, on y ajoute un peu de sel, et à travers un procédé breveté, on est capable de séparer les molécules, de créer un acide hypochloreux qui vient désinfecter les surfaces, et une base nettoyante dégraissante qui vient nettoyer les moquettes, les baignoires, les lavabos, enfin l'ensemble des surfaces à nettoyer.
C'est un processus, une technique qui existait déjà dans l'industrie et que finalement vous avez appliqué à d'autres
secteurs. C'est vrai qu'on utilise un procédé qu'on est en train de travailler sur les piles à hydrogène pour les voitures de demain. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on a déplacé cette technologie et cette avance R&D dans le métier de la détergence, qui est un métier un peu différent, qui suscite moins d'intérêt de la part des grands industriels, mais qui pour nous est source d'innovation, de développement durable et surtout aussi d'économie pour nos clients.
Et puis il y a un véritable enjeu aussi derrière. Alors vous avez déjà évidemment des hôtels qui vous suivent dans cette démarche. Vous avez à peu près 2 ans d'existence. Vous êtes aussi du côté des Hauts-de-Seine, je crois.
Tout à fait. On est à Puteaux, donc on est assez proche. On est tous autour de la Défense, que la Défense nous attire comme
bah oui, parce
lumière.
Que c'est là aussi, évidemment.
Et
que...
aujourd'hui, on s'est beaucoup déplacé vers les immeubles HQE. Vous savez que la grande tendance du monde de l'environnement, c'était de créer justement des immeubles HQE. Et nous, on propose en fait maintenant de nettoyer ces immeubles HQE avec nos procédés. Et on a notamment eu beaucoup de succès à la Défense, sur les tours AXA, à la BNP, dans des grands sites qui se sont voulus plus verts et qui ont proposé de nettoyer du tertiaire, donc des immeubles tertiaires HQE avec nos produits donc qui vont permettre de nettoyer des moquettes et l'ensemble des surfaces.
Alors on a commencé un petit peu à voir un peu ces différentes techniques que vous employez, voir aussi sont brevetées, est-ce que c'est sérieux, pas sérieux. En tout cas, vous travaillez tous à votre façon à l'amélioration de la qualité de l'eau et aussi, en tout cas un environnement plus pur, donc on verra tous ces procédés après une première pause dans Paris d'avenir sur BFM Business. Paris compte près de 2 millions d'habitants et c'est 1 million de personnes qui vient aussi travailler chaque jour. Et pour satisfaire à la demande, 500 000 mètres cubes d'eau potable sont mis en distribution chaque jour. Tout est sous surveillance et notamment le déversement des eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement collectif. Alors de l'eau potable pour tous, c'est évidemment une priorité à Paris, mais partout dans le monde. De l'eau toujours plus propre, c'est le thème ce soir de Paris d'avenir autour d'entreprises innovantes. Grégoire Profi, directeur technique R&D d'ISB Water, donc jeune entreprise innovante d'Île-de-France, vous proposez, vous l'avez un petit peu expliqué déjà tout à l'heure, une vraie rupture technologique. Qu'est-ce qui fait la différence, on va dire, peut-être avec d'autres?
Alors, je dirais un hasard au départ, c'est-à-dire qu'on a eu la chance finalement pas du tout de venir du domaine de l'eau et de pouvoir distribuer de façon exclusive une technologie qui était basée sur une approche intégrant plusieurs contraintes physiques ou physico-chimiques. Et par contre, qui avait été développée d'une façon assez empirique et où un certain nombre d'éléments de compréhension n'existaient pas à l'époque. Et donc on a beaucoup travaillé et développé de la recherche et développement pendant un certain nombre d'années afin d'aller regarder de façon très fine ces différents éléments. Et aujourd'hui,
donc il a fallu du temps, j'imagine, sur le travail de recherche et développement entre le début de la création de l'entreprise et la mise en application de ce que vous faites.
Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité de la société par rapport à son devenir est encore une très jeune pousse. Et j'espère qu'on aura des jours nettement plus confortables dans les prochaines années. Mais tout étant que vraiment en étudiant ces phénomènes et en participant dans des pôles de compétitivité...
Oui, vous faites partie du pôle de compétitivité Advancity, notamment évidemment en Île-de-France.
Oui, ouais. Advancity nous a permis de nous mettre en contact avec un certain nombre d'acteurs institutionnels ou académiques ou je dirais également universitaire, et dans ce cadre d'initier un certain nombre de protocoles scientifiques dont on commence à avoir un certain nombre d'éléments, de données qui nous permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin et effectivement de garantir dans de nombreux process des efficacités que le modèle standard utilisé aujourd'hui n'arrive pas à atteindre.
Avec beaucoup de brevets, hein, vous le disiez, combien?
Oui, alors aujourd'hui on a 3 brevets à proprement parler, dont un qui est en PCT pour l'instant, et on a encore beaucoup d'axes de recherche possibles à venir.
Yann Charrera, directeur général d'Aquaticia, donc bureau d'études techniques, je le disais, vous présentez comme la seule offre complète pour la qualité de l'eau. Alors quand on voit, il y a beaucoup d'innovations à l'image de ISB Water, ou voir le vrai du faux, qu'est-ce qui est bon aussi en matière d'eau, enfin on sent qu'aussi c'est évolutif aussi dans ce secteur-là. Et en même temps, il faut que ça soit pas seulement évolutif, faut que la sécurité soit garantie.
Alors, il faut quand même savoir qu'on a un cadre réglementaire qui est très strict, sur lequel on se base. Il faut savoir que l'offre que nous apportons part du particulier, qui doit représenter à peu près 30% de notre chiffre d'affaires, et 70% d'entreprises. On entend par là collectivités, hôtels, hôpitaux, maisons de retraite, pour qui on va s'assurer d'une chose très simple, de respecter la réglementation d'une part, mais d'autre part que la qualité de l'eau n'apporte pas de danger pour la santé humaine. À partir de là, quand on informe les gens en leur disant qu'on va proposer une offre complète, c'est assez simple. C'est pour le particulier, nous lui proposons un kit.
Mais voilà, sont des kits ou des packs. Par exemple, typiquement, on va dire le kit les jeux des lots, c'est pas très joyeux, mais c'est ça. Enfin, ça en fait partie entre guillemets.
Exactement. Oui. Un kit très simple dans lequel on lui envoie le flaconnage et le protocole nécessaire pour faire son prélèvement. Un bon de retour qui lui permet de nous renvoyer les échantillons et notre laboratoire traite les analyses. Ça marche aussi bien avec les particuliers qu'avec les professionnels.
Sentez qu'il y a une envie des particuliers aussi, voilà, d'aller voir et vérifier d'eux-mêmes.
Je dirais même que c'est
même
exponentiel.
Même encore plus, oui, d'accord.
Que c'est exponentiel. Ouais. Au début, c'était quand même sporadique. Faut dire ce qui est. Les questions de qualité d'eau commencent à venir. Les particuliers s'inquiètent de plus en plus de connaître la qualité de l'eau de leur puits, par exemple, de l'eau de leur piscine, voire pour certains, l'eau du robinet. On a aussi le cas de la concentration en plomb dans l'eau. En région parisienne, on entend énormément parler de plomb, de plomb, de plomb. La réglementation arrive l'année prochaine, donc ça arrive petit à petit. Pour les professionnels, l'obligation réglementaire. D'une part, les établissements recevant du public sont très encadrés, et pour cela, on leur offre un service vraiment complet qui va de l'analyse au conseil à la formation.
Alors quand on parle d'adoucisseur aussi, parfois on dit l'adoucisseur justement à sel aussi, ça pose des problèmes. Enfin, il y a des interrogations aussi autour de l'eau adoucie.
Je dirais que chaque traitement a son avantage et son inconvénient. Notre métier, c'est d'analyser les avantages, les inconvénients et surtout une chose pour les professionnels, les coûts d'exploitation.
Voilà, donc justement, vous arrivez directement à la question que j'envisageais, voyez, pour faire mon métier. Donc, c'est Jean-Christophe Pruvot, fondateur de Clinéa, donc vous qui proposez, on va dire, voilà, pour résumer, de changer l'eau en détergent vert. Vous, ce que vous mettez en avant aussi, sont les économies que ça peut représenter aussi sur le budget. Ça, c'est important, hein, sur le budget de produits d'entretien.
Bien sûr, parce que je pense que l'écologie, le développement durable sont liés à l'économie, évidemment. Et il ne s'agit pas simplement que ce soit plus cher, il faut que ce soit au moins aussi efficace et tout aussi performant. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est effectivement des produits qui sont aussi efficaces que les produits traditionnels de la chimie. Mais
donc c'est une machine en inox, c'est ça
que machine qui on va dire à, on va vous dire un gros frigo qu'on branche sur l'eau comme une machine à laver la vaisselle ou le linge et qui va permettre de produire 40 litres à l'heure de détergent. Voilà. Cette machine, on vient stocker le détergent, on va s'alimenter dessus, et globalement, on va remplacer une charge variable qui est l'achat de détergent pour nettoyer par un investissement une fois pour toutes sur cette machine. Évidemment, il faut qu'il y ait une certaine surface pour que ça puisse...
Oui, c'est un investissement qui est à peu près 15 000 euros, c'est ça?
13 700
ouais.
euros.
Oui, voilà, mais il faut rajouter un petit peu de maintenance quand même.
Tout à fait, un peu de maintenance. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il faut environ des immeubles de 20 à 25 000 m² pour que ça puisse être économiquement viable.
Oui, c'est bien, vous proposez un système de location aussi pour faciliter aussi...
Tout à fait, l'accès à la technologie. Donc, nous avons du leasing, de la location et tous les modes de financement modernes. Parce qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être un frein à s'équiper de matériels qui sont innovants et axés sur le développement durable.
Alors, quand on parle aussi d'utilisation de l'eau, j'imagine avec ce système-là, quand même, on en utilise aussi moins de l'eau. Parce que c'est aussi la question. Parce que je sais, voilà, dans les produits d'entretien, on met toujours du produit d'entretien dans de l'eau. Donc peut-être, ouais, il faut aussi penser à
alors,
ça aussi dans les économies.
Sur la thématique de l'eau, l'idée, c'est que l'eau est un merveilleux produit. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on nous a fait parce que cette eau, on arrive à la faire évoluer, à changer en produit. Et nous, avec un litre d'eau, on fait deux produits de 50 centilitres chacun. Donc il n'y a pas d'évaporation, chaque litre est utilisé. Et d'autre part, on a travaillé sur des produits plus neutres, avec moins de résidus, et ce qui fait qu'on a moins besoin de rincer. Or le rinçage, on sait tous que c'est une perte significative d'eau, que ça coûte de l'argent, et qu'en plus ça remet du tartre à un endroit qu'on vient de nettoyer. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est adapté pour dans les métiers où on veut faire de l'économie. Et aujourd'hui, nos produits n'ont aucun résidu, et permettent justement de gagner ce rinçage.
Grégoire Profi, un mot aussi d'ISB Water. Là aussi, dans votre pack adoucisseur d'eau aussi, vous mettez en avant, on va dire, les économies que ça peut représenter. Là
oui,
encore.
Tout à fait. On a conçu ce pack. En fait, c'est un pack qui intègre une offre globale qui permet une protection de l'ensemble des circuits sanitaires de la maison ou de l'appartement qui est installé dans un appartement justement parce qu'il est très peu encombrant. Et ce pack permet de traiter dans son ensemble tout ce qui est risque, donc corrosion et entartrage. On n'intervient pas, comme le précisait Monsieur Charra, sur l'aspect potabilité de l'eau. Hein. Mmh. Il y a bien entendu certaines régions en France où on peut trouver des dépassements en pesticides, ou, mais c'est quand même des choses qui sont extrêmement isolées. Donc c'est des choses, des éléments qu'on pourrait fournir, mais aujourd'hui qu'on ne fournit pas dans le pack. Voilà. Hein. Donc ce pack permet en fait finalement de se passer de maintenance, hein, d'avoir des économies d'eau par rapport à un adoucisseur à sel traditionnel de l'ordre de 10%, hein, parce qu'on se passe de l'eau nécessaire au rinçage des résines et à la fabrication de la saumure, et également donc des économies d'énergie et des économies substantielles dans le temps, parce que tous les équipements, hein, qui sont connectés ainsi que les canalisations sont préservés.
Voilà, donc on le voit à travers vous, à travers ce que vous avez démontré. Il y a des innovations, il y a beaucoup de questions aussi autour des enjeux. J'ai bien compris aussi que les particuliers étaient de plus en plus intéressés et qu'en tout cas la sécurité sanitaire, c'était vraiment important. Mais il y a aussi des interrogations, notamment autour des modèles, l'avenir de ces modèles, la place aussi que peuvent avoir un des plus petits acteurs comme vous dans un secteur de l'eau qui est quand même dominé par des plus grands. Tout ça, on y reviendra après une nouvelle pause dans Paris d'avenir et le journal de l'économie sur BFM Business. 77% des Français estiment que l'usage des produits ménagers peut avoir des conséquences sur leur santé. 23% parlent même de graves incidents possibles. Mais l'environnement n'est pas toujours un critère d'achat, en tout cas seulement pour 45% d'entre eux. C'est ce qui ressort d'une étude amenée par le Crédoc. Des produits ménagers, hein, qui peuvent inquiéter. Et puis l'eau aussi, la qualité de l'eau aussi, ça c'est un des enjeux cruciaux. Et plus que jamais, les particuliers, on le voit ce soir dans Paris d'avenir, sont concernés. Donc l'eau toujours plus propre, c'est le thème de Paris d'avenir autour d'entreprises innovantes d'Île-de-France. Yann Charrera, directeur général d'Aquaticia, donc bureau d'études. Alors vous, quand vous analysez l'eau et qu'on voit en même temps, je crois que la France est le troisième consommateur mondial de pesticides aussi, et qu'il y a toujours des interrogations autour de la pollution de l'eau, on n'a pas l'impression toujours d'avancer contre vents et marées?
C'est une bonne question. Honnêtement, je vous le disais en début d'émission, c'est vraiment le produit le plus contrôlé en France. On a quand même des problèmes en région avec les puits, les forages, et dans certains cas dans des bâtiments neufs ou même des bâtiments existants. En fait, je pense que tout le monde est concerné par ce problème de qualité d'eau, notamment avec l'arrivée de nouvelles technologies pour assembler les canalisations qui génèrent d'autres polluants qu'on n'avait pas avant, avec des matériaux comme le cuivre, l'acier galvanisé et autres. Ces matériaux-là arrivent en fin de vie, donc on est là pour les auditer, mais les nouveaux produits créent d'autres désordres. Donc dans les résultats d'analyse, on a souvent des surprises, en fait.
Ouais, on a souvent des surprises. Donc, comme quoi, finalement, vous disiez les inquiétudes, il n'y a pas de raison d'être inquiet. A priori, c'est ce qu'on dit. Mais finalement, quand on va y chercher le plus loin, il y a quand même des interrogations. Et vous, votre rôle, il est évidemment important.
Il faut savoir que l'eau est une denrée périssable, au même titre que la viande et que d'autres produits de tous les jours. Donc, on contrôle bien l'alimentation humaine. L'eau fait partie de l'alimentation humaine à contrôler, à surveiller. Une carafe d'eau, 7 jours dans le frigo, n'a pas la même qualité que sortie du robinet. Et des fois, sortie du robinet, elle est de mauvaise qualité. Ça reste assez rare en région parisienne, mais on a souvent des cas quand même.
Voilà, donc en tout cas, on est des acteurs, hein, qui font en sorte que cette eau, en tout cas, on sache déjà au moins comment elle est et pourquoi pas l'améliorer encore plus. Il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui voient le jour dans ce secteur, des innovations qui sont cruciales, hein, pour la préservation de l'eau, mais parfois, hein, passer du concept à la réalité est bien difficile. C'est ce qu'on va voir avec Isabelle Gollens. Bonsoir.
Bonsoir Nadine.
Et donc cette innovation, transformer l'air en eau.
Oui, c'est le pari fou de Marc Parent, un entrepreneur français, donc qui a décidé de transformer l'air en eau. L'idée lui est venue alors qu'il vivait aux Antilles sans accès à l'eau de la ville. Il a commencé par récupérer l'eau qui se condensait sous son climatiseur. Il s'en servait pour sa machine à laver ou pour faire la vaisselle. La deuxième étape du processus est venue grâce à des coupures d'électricité à répétition qui l'ont poussé à se tourner vers l'option de l'éolien. Donc l'invention de l'éolienne productrice d'eau potable n'est plus très loin. Marc Parent dépose 2 brevets en 2000 puis en 2005. Il crée alors la société Eol Water avec quelques amis, mais l'entreprise a du mal à décoller. Le concept a pourtant de quoi séduire. Il est simple et écologique. Il nécessite de l'air, l'énergie du vent et des composants tous recyclables. Le seul souci, c'est l'infrastructure de l'éolienne et son coût.
Oui, mais ça ressemble à quoi justement l'Eol Water?
Alors, il s'agit d'une éolienne d'un peu plus de 10 tonnes, d'une hauteur de 30 mètres. Le rotor, lui, est d'un diamètre de 13 mètres. L'éolienne peut produire jusqu'à 1000 litres d'eau par jour. Son fonctionnement est le suivant. Elle aspire l'humidité de l'air ambiant. L'humidité est ensuite transformée en eau grâce à une unité frigorifique, un peu comme le phénomène de pluie finalement. L'eau condensée est ensuite filtrée, l'eau potable ainsi fabriquée est enfin stockée dans le mât de l'éolienne. Le vent est le seul élément consommable et il n'y a aucun rejet de CO2. Autre qualité du dispositif, il peut être installable et utilisable sur 80% de la surface terrestre. Alors, information très importante quand on sait que derrière tout ça se cache finalement le rêve de fournir un accès à l'eau potable aux pays qui en sont dépourvus. Alors, comment commercialiser son concept dans des pays en développement qui n'ont pas les financements suffisants pour installer ces éoliennes? C'est toute la limite du projet d'Eol Water. Le coût de production tournerait autour de 10 000 à 50 000 euros selon la taille de l'éolienne et les partenaires industriels et financiers manquent. Enfin, la question de l'accès à l'eau est très politique, surtout lorsque l'utilisateur final n'a pas les moyens de se payer l'outil technologique en question. Et c'est en partie au gouvernement de prendre ses coûts en charge, une barrière très compliquée à franchir pour le créateur d'Eol Water.
Alors, Jean-Christophe Prevot, un fondateur de Clinéa, évidemment, avec cet exemple dont parlait Isabelle et Eol Water, on en est loin, on n'est pas encore dans les pays émergents, mais c'est juste autour de la question du modèle. Quand on arrive avec un projet innovant comme le vôtre, alors je sais que vous êtes qualifié jeune entreprise innovante, vous êtes soutenu notamment par Oseo, est-ce que c'est facile?
Alors, quand on se retrouve sur le chemin parcouru, on se dit waouh, tous ces obstacles que j'ai franchis, c'est incroyable. Et heureusement qu'on ne sait pas tout à l'avance. Donc il faut une forme d'inconscience, mais je crois que c'est le pari de tout entrepreneur. Mais j'ai trouvé moi un terrain extrêmement favorable en France. Il y a beaucoup de lois qui finalement nous aident. Le crédit impôt recherche est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidé. On n'aurait pas pu faire notre société sans ce crédit impôt recherche. J'ai aussi beaucoup eu d'enthousiasme lié au Grenelle de l'environnement. On sent que les thèses du développement durable se répandent dans toutes les strates de la société. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens de marques de sympathie, d'aide et d'encouragement. Et c'est presque ça qui m'a le plus aidé. C'est cet enthousiasme de mes clients, l'enthousiasme des gens à qui je faisais partager ce projet, qui m'ont poussé. Et c'est pas tellement les sujets financiers qui sont importants, c'est plutôt l'envie, l'enthousiasme qui vous porte.
Grégoire Profil, directeur technique de R&D, d'ISB Water, vous aussi avec votre technologie de rupture aussi arrivée comme ça. Bon, il a fallu du temps, j'ai bien compris, en R&D, même si tout n'est pas encore finalisé, c'est facile d'arriver avec eux.
Alors non, arriver avec ce type de technologie n'est pas évident, dans le sens où pendant longtemps il a existé un certain nombre de technologies qui ont donné pour certaines des résultats, parfois non, et on a toujours eu beaucoup de difficultés en fait à comprendre pourquoi des fois ça fonctionnait, des fois pas. Donc on est sur une approche dite anti-tartre ou physique, et donc il faut un certain temps avant d'amener les preuves, finalement les éléments de compréhension, afin de pouvoir convaincre les acteurs de l'eau d'utiliser ce type de procédé. Aujourd'hui, je dirais, on a suffisamment de références et on a des grosses références, notamment hospitalières, avec l'hôpital de Neuilly, l'hôpital américain ou l'hôpital d'instruction des armées, sur lesquels, depuis maintenant plusieurs années, on a entièrement réglé ces problèmes-là. Donc, avec ça, je dirais, le marché s'ouvre à nous, mais c'est effectivement plutôt un début.
Yann Charrera, directeur général d'Aquaticia, c'est vrai que souvent l'innovation, notamment dans le segment de l'eau, souvent c'était réservé aux plus grands groupes, et on sent quand même qu'il y a l'arrivée, il y a quand même des nouvelles, des réussites technologiques et l'arrivée, la percée de nouveau sur ce marché.
C'est qu'au fond, je pense qu'il y a un réel besoin en matière de qualité d'eau, que ce soit tant sur la technologie comme avec ces messieurs qui proposent des procédés innovants, aussi bien sur le contrôle et aussi bien sur la prise de conscience des gens en matière de qualité d'eau. La consommation d'eau, c'est vraiment un acte simple. Mais au final, tout ce qui vient avant le robinet, c'est vraiment monumental. Et la pollution peut venir de n'importe quel endroit, en fait. Elle peut venir des usines de traitement d'eau, mais je pense que les très grands groupes s'occupent très bien de contrôler cette qualité d'eau.
Et puis là encore, il y a aussi la réglementation qui de plus en plus les pousse et fait bouger aussi.
Et en parlant de réglementation, je pense que la grosse innovation, ça a été ce que j'appellerais la bascule, en fait. Mmh. On contrôlait la qualité de l'eau dans les bâtiments au compteur général, au pied de l'immeuble, jusqu'à 2001. Et en fait, on a tout à fait changé, puisque maintenant on contrôle au robinet du consommateur. Donc c'est pour ça aussi, je pense, que les gens ont pris conscience que la qualité de l'eau était vraiment primordiale.
Donc pris conscience, même les entreprises, on disait qu'il y a de plus en plus, bon, il y a évidemment la réglementation, mais il y a encore besoin de pédagogie, vous le sentez, ou...
Je pense qu'on évoluera toujours dans le domaine de la qualité de l'eau. On entendait la société Eol qui proposait un système innovant. Je pense qu'elle représente tout à fait mes clients particuliers, dans le sens où le créateur était aux Antilles et il n'avait pas l'accès à l'eau. En région parisienne, on a tous accès à l'eau.
Bien sûr.
Il me semble que la Fondation Abbé Pierre précise quand même qu'il y a 1% des logements n'ont pas l'eau courante à Paris. Donc c'est quand même très très rare.
Mais il y a quand même 1%.
Il y a quand même 1%. En région, c'est différent. On a des gens qui s'alimentent encore avec leur puits ou qui s'alimentent avec un forage ou alors qui ont un cours d'eau. Et ces gens-là veulent connaître la quantité de pesticides, on en parlait tout à l'heure, mais ils veulent aussi savoir ce qu'ils consomment. Deux types de clients, ceux qui vont utiliser l'eau pour la machine à laver. Il faut quand même savoir que c'est une eau destinée à la consommation humaine et les gens qui vont utiliser l'eau du puits pour la boire.
Oui, et donc plus que jamais besoin aussi de l'analyser, de la rendre plus propre aussi à travers toutes vos démarches. Alors quelles sont toutes les perspectives de développement, d'amélioration aussi dans le secteur de l'eau et de vous-même? On le voit après une dernière pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. Alors pour le rappeler, chaque jour nous consommons à Paris plus de 500 000 mètres cubes d'eau potable. Paris qui compte environ 800 fontaines publiques où l'on peut boire de l'eau de qualité, nous dit-on. Et d'ailleurs, c'est l'eau du robinet qui coule aussi à Paris Plage. Alors de l'eau plus propre à Paris et ailleurs, on en parle ce soir dans Paris d'Avenir autour d'entreprises innovantes d'Île-de-France. Jean-Christophe Pruvot, fondateur de Clinéa, donc vous qui changez l'eau en détergent vert, 2 ans d'existence. On sent quand même, en la matière, vous en faites partie, le nettoyage, entre guillemets, écologique. Aussi gagne de plus en plus de terrain, parfois avec ou sans eau d'ailleurs, notamment pour les voitures. Donc j'imagine que pour vous, vous sentez quand même des perspectives de développement.
Oui, bien sûr, surtout que nous, on a eu l'étape classique de la R&D, de l'innovation. Ça a pris 2 ans. Depuis 6 mois, on a sorti notre machine. On a commencé à la présenter à nos grands clients et on a eu la chance de pouvoir surfer sur cette fameuse vague verte. On a eu une écoute attentive, on a eu facilement rencontré les bons interlocuteurs et aujourd'hui, on a un marché colossal qui s'ouvre à nous. On essaie de le prendre par le bon bout, de pas aller trop vite et de monter la société étape après étape en montant un service de après-vente de qualité, en assurant nos prestations et c'est ça qui est important. Donc aujourd'hui le marché est sans limite, on a la chance de pas être sur une niche, donc on a beaucoup d'ambitions, on a des ambitions mondiales et est-ce qu'on a juste envie, c'est on s'est fait beaucoup aider jusque là, on a reçu beaucoup d'aide de la puissance publique, puis on s'est aidé nous-mêmes, mais on aimerait
pas trop de financement, c'est ça vous voulez dire,
en outre de financement et puis d'aide, on a des très bons ingénieurs, moi, je travaille avec les ingénieurs des arts et métiers qui sont tout à fait étonnants et aujourd'hui on a juste envie de dire ouvrez-nous un peu les marchés, donnez-nous un peu d'aide. On a envie de nettoyer le ministère du Développement Durable, on a envie de nettoyer les grandes collectivités. Et voilà, il faut que maintenant on passe cette barrière-là et on est aidé vraiment par les entreprises de propreté qui maintenant ont adhéré à notre projet, nous font confiance et nous emmènent dans leurs valises voir leurs clients. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire.
Donc, les entreprises de propreté, comme quoi il faut travailler aussi avec quand on est une entreprise innovante avec les plus grands en France.
Hein, ça
aussi,
ça c'est important. Il ne faut pas tout faire tout seul. Ouais. On peut pas. Il y a des acteurs majeurs. Ce sont des gens qui sont aussi à la coûte de l'innovation et du développement durable. Ils ont envie de travailler avec nous et nous, on est là pour apporter et le but, c'est d'en faire le plus possible, évidemment.
Alors, les perspectives aussi pour vous, Grégoire Profi, directeur technique R&D d'ISB Water. Vous disiez encore, vous n'en étiez, aussi, il y a eu beaucoup de R&D. Il a fallu développer. J'imagine vous avez aussi encore d'autres perspectives dans votre entreprise.
Oui, alors, on a des belles perspectives. Déjà, dans les réalisations en cours, on va installer nos solutions sur l'ensemble des stations d'autoroute de la France, donc c'est déjà une belle réussite. Nous lançons une nouvelle offre complète pour le domestique également pour la rentrée qui intégrera les 4 offres qui nous semblent essentielles pour couvrir que ce soit les besoins en chauffage, que ce soit besoin en eau sanitaire, eau de loisirs comme les piscines ou enfin la potabilisation pour les eaux de puits ou de forage et en espérant pouvoir proposer aux gens justement une offre la plus écologique possible avec une économie d'échelle très importante parce que on génère des économies d'eau, d'énergie qui sont très importantes mais nos solutions sont en plus de base bien souvent meilleur marché que les technologies traditionnellement
utilisées. Oui, c'est ce dont on parlait justement, vous parliez tout à l'heure des grandes entreprises, vous avez aussi des particuliers justement, si on va parler, vous parlez d'une offre aux particuliers. particuliers, vous adressez aussi à eux dans votre
marché? On adresse effectivement les particuliers. Alors aujourd'hui, de façon assez chaotique, du moins pas très structurée, c'est la raison pour laquelle on lance une nouvelle plateforme internet, un portail dédié spécifiquement aux particuliers pour la rentrée 2012.
Voilà, donc pourquoi il y a encore besoin de pédagogie et de se faire connaître en la matière. Yann Charrera, directeur général d'Aquaticiam, quand on a un bureau d'études, je vais vous parler évidemment de vos perspectives. Voilà, de toute façon, analyser, il faut plus que jamais le faire. Alors, on commençait à en parler dans les perspectives en lui-même, même du marché de l'eau, entre les entreprises, les partenariats, les rapprochements aussi. C'est quelque chose qui peut se faire.
Alors, en fait, les perspectives, contrairement à ce que vous pensez, elles sont énormes.
D'accord.
On veut proposer une solution la plus simple possible, la plus efficace, un prix raisonnable et raisonné. Il faut savoir quand même qu'en à peu près 5 ans, on a divisé le prix de l'analyse par 2. D'ici 1 à 2 ans, on va encore le diviser par 2. Le système est très simple. Plus nous réalisons d'analyses, plus nos coûts d'exploitation diminuent à l'analyse, et plus nous pouvons proposer des tarifs qui sont compétitifs.
Ouais, finalement, c'est la question à laquelle on revient, la fameuse question du prix de l'eau, où il y en a beaucoup qui disent, finalement, pour rendre l'eau propre, c'est l'explication ici qu'on donne et qui est importante, il faut aussi la payer. Et d'autres disent, oui, mais l'eau, elle est à tout le monde. Et c'est toujours la question qui revient. Et même des grands groupes qui ont lancé des réflexions aussi sur les idées sur l'eau.
Vous allez chez le médecin? Pourquoi n'iriez-vous pas dans un laboratoire pour faire analyser votre eau? Vous faites ce qu'on appelle communément un check-up pour savoir quel est votre état de santé après avoir fait une bonne fête. Mais avec l'eau, c'est la même chose. Au minimum une fois par an. Vraiment au minimum une fois par an, sauf cadre réglementaire spécifique où vous allez avoir des obligations trimestrielles, voire mensuelles. Mais le contrôle, je pense que c'est vraiment la base. Et l'évolution est faite par la réglementation et par la dégradation de la qualité de l'eau, notamment avec l'ajout de produits détergents qui sont retraités et ainsi de suite. Et je pense que mon discours va rejoindre celui de monsieur. Plus nous polluerons, plus nous serons obligés d'analyser. Je serais donc obligé de vous dire, continuez à polluer. Je continuerai à analyser.
C'est ce que je vous dis. Mais notre rôle est de trouver d'autres solutions. Et justement, d'autres innovations. Voilà, la question de l'eau est plus globalement dans le monde. Alors, on sait qu'il y a toujours autant d'eau, mais il y a plus en plus de monde, et c'est bien toute la problématique. Et on sent qu'il y a vraiment des nouvelles technologies, notamment aussi la réutilisation des eaux usées, qui commence à arriver beaucoup, voire dans le chauffage. Enfin voilà, on sent quand même que en la matière, il y a une réflexion. Pour pas la démarche durable dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Christophe Prévost.
Oui, bah effectivement, de ne serait-ce qu'en France, on sait que le coût du mètre cube, c'est 4 euros à peu près en prix moyen. Et globalement, les gens le savent maintenant. Ils savent que ça coûte cher et que dans ce coût-là, vous avez le rejet, vous avez l'amont et vous avez le traitement et toutes les analyses. Donc, je pense que votre réflexion est excellente. C'est que avant de nettoyer, essayons de pas salir. Donc, que notre eau arrive la plus pure possible et elle coûtera forcément moins cher. Maintenant, ce qu'on sait tous, c'est que l'eau est mal répartie. Malheureusement, les événements récents nous le prouvent tous les jours. Et donc, il faut arriver à transporter, créer de l'eau, tous les systèmes sont bons, il y a des systèmes de filtre, voilà. Donc aujourd'hui, la technologie peut être au secours du développement durable et je crois que les deux ensemble marchent très bien.
Un mot, et Grégoire Profil, justement, sur cet aspect.
Moi, je rejoins les propos qui viennent d'être tenus. Je pense qu'effectivement, on a un problème, c'est-à-dire lié à la pollution des eaux. On a une qualité des eaux qui est fortement dégradée en France. On essaye de prendre des mesures afin d'y remédier, mais bon, ça a des implications socio-économiques considérables. Donc forcément, les coûts de l'eau augmentent puisqu'on est obligé d'utiliser des technologies de plus en plus performantes pour avoir des eaux irréprochables au robinet. Et la logique sur le long terme étant bien entendu d'essayer de supprimer ou de moins réduire au maximum les pollutions et les rejets en milieu naturel. Comme ça, on pourra peut-être un jour payer notre eau moins cher, mais c'est pas pour demain, et je pense que pour un certain nombre d'années, on la paiera un certain prix.
Voilà, donc au moins ça c'est la conclusion, et voilà, et on a besoin d'entreprises comme vous, d'innovation plus que jamais en la matière, en attendant évidemment de ne pas polluer et d'évoluer aussi dans ce secteur-là. Merci à tous les trois d'être venus dans Paris d'avenir. Demain, on se retrouve toujours en direct à 21h pour parler cette fois-ci des nouvelles formes d'entrepreneuriat, être son propre patron, ou encore faire du travail collaboratif, ou encore trouver un moyen aussi pour mobiliser ses salariés autour d'un projet fédérateur. Les idées ne manquent pas en la matière, à découvrir donc demain soir.